Alors nous souhaitons la bienvenue au Chariot Blanc ainsi qu'à l'énergie de Michael.
Bienvenue à vous-même, directeur.
Merci. Alors ce soir, nous avons convenu de se regrouper autour du thème « Nos relations, nos miroirs ». Avez-vous un commentaire ou encore un enseignement à nous faire à cet effet avant la période de questions?
C'est très amusant. Certainement, nous allons vous donner un enseignement au sujet des relations et des miroirs. D'abord, parler de miroir, c'est parler de la matière. Si vous regardez chez vous, dans votre maison ou quelque part, dans votre petit sac à main où vous avez un miroir, vous pourrez comprendre que vous possédez là une pièce de verre qui a été taillée, qui était transparente à l'origine, mais qu'on a enduit. On a enduit avec un procédé de sorte qu'on peut garder d'un côté l'obscurité et de l'autre côté la clarté, les deux polarités. Un peu comme la terre, le jour est clair et le soir est obscur. Un peu comme la lune disparaît le jour et apparaît la nuit, réfléchissant dans son miroir le soleil. Alors, ce petit morceau de verre dans lequel vous vous regardez, vous vous contemplez, vous vous critiquez, vous vous observez, auquel vous faites parfois des sourires et parfois des grimaces, il vient refléter bien sûr vos relations. Nous allons utiliser ce soir trois comparaisons différentes pour vous faire comprendre que la notion de miroir doit être comprise dans des étapes successives ou dans des états qui soient différents. Nous parlerons par exemple du miroir qui a été taillé à l'équerre et qui est de forme carrée. Ce miroir, son origine est très tardive, c'est-à-dire qu'il est, il est là, présent dans vos vies, depuis des millénaires et des millénaires. Alors, ce petit miroir qui est là, placé devant vous, il vient vous refléter une multitude de vies que vous avez vécu sur le plan, c'est-à-dire que ce miroir carré, vous le traînez depuis des millénaires. Que reflète-t-il? Il reflète bien sûr votre image, mais votre image dans la notion d'énergie karmique. Et lorsque nous parlons d'énergie karmique, nous parlons de tout ce qui a trait aux émotions, de tout ce qui a trait au corps physique, c'est-à-dire au corps de matière et de tout ce qui a trait à, nous dirons, la partie qui est une autre forme d'émotion et gérée par l'émotion et qui est le chakra de la dualité. Ainsi que vous le disait le directeur avant cette séance, il parlait de l'énergie des trois chakras de la base qui sont appelés à s'éteindre. Mais avant de s'éteindre, vous devez changer de miroir. Ce petit miroir carré, avec des coins et des aspérités qui sont heurtantes, est là auprès de vous pour vous donner l'image et de façon la plus précise possible de vos traits de caractère, de vos comportements, des scénarios que vous jouez depuis des multitudes de vies et que vous ne cessez pas de répéter. Et nous vous dirons, ce miroir, il a comme objectif de vous refléter tous les aspects karmiques, de sorte que parfois, vous pourrez y voir une petite brisure ou que vous aurez l'impression qu'il est concave ou qu'il est convexe ou qu'il vous agrandit la figure ou qu'il vous la met avec des formes tout à fait différentes de ce que vous croyez que vous êtes. Ce miroir, bien sûr, et nous parlons des personnes qui sont autour de vous et qui viennent vous refléter votre image afin que vous puissiez avoir la sagesse de décoder à l'intérieur de ceci ou à travers ceci tous les comportements que vous avez à changer. Lorsque vous choisissez de vivre avec un collègue, soit un collègue de travail, ou soit un conjoint, ou soit que vous avez choisi des parents, ou des enfants, ou des frères, ou des sœurs, ou des amis, ou des ennemis, vous les avez tous choisis pour être ce petit miroir carré qui vous reflète cette partie karmique de vous que vous avez à transformer et à changer. Lorsque vous commencez à avoir cette conscience et à comprendre ceci, alors vous commencez à sortir de l'étape du jugement. Vous ne jugez plus les autres comme étant des malfaiteurs ou des agresseurs, mais vous comprenez que leur reflet est là pour vous enseigner la partie de vous que vous ne respectez pas ou que vous agressez. Lorsque vous commencez à avoir cette conscience, vous devenez très inconfortable avec le petit miroir carré. Si au-delà de la conscience, vous ajoutez l'action, c'est-à-dire que vous passez à l'action pour transformer et changer vos comportements, alors de moins en moins, vous avez ces formes de réflexion qui sont extérieures à vous, qui vous rendent inconfortable, qui vous précipite dans vos émotions et qui vous laisse là, seul, éploré et malheureux. Alors, à ce moment-là, vous êtes en train de franchir une étape. Cette conscience et cette action vous font franchir des paliers que vous pourriez appeler des paliers initiatiques. Lorsque quelqu'un a complété sa sixième initiation, c'est-à-dire qu'il sort de l'énergie du sauveur, du persécuteur et de la victime, à ce moment-là, il peut entrer dans un palier nouveau et changer de miroir. À ce moment-là, le miroir, il sera tracé avec un compas et il aura une forme ronde, c'est-à-dire où il n'y a pas d'aspérité. Dans ce miroir, il y aura des reflets différents. Vous commencerez à voir chez le conjoint ou chez l'ami quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui change, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui est plus évolué, et vous allez commencer à voir les gens qui sont autour de vous avec une vision nouvelle, une perception nouvelle. Dans ce petit miroir qui est le miroir rond, vous avez les reflets. Parfois, vous aurez des petits reflets de miroir carré qui viendront se pointer, mais votre conscience sera suffisamment évoluée pour reconnaître très bien le jeu de l'émotion, le jeu de l'illusion présenté par le corps, présenté par cette dualité et cette division. Alors, à ce moment-là, vous allez encore franchir d'autres paliers. Vous allez sentir que vous êtes attiré et aspiré par la lumière, que vous ne pouvez plus vivre dans ces formes de réalité et vous allez vous sentir inconfortable qu'il y ait des miroirs. À ce moment-là, vous allez franchir la sixième race vers la septième race. Lorsque vous entrerez et que vous serez entre les deux, car vous savez, ceci ne sont pas des pièces ou des corridors que vous traversez avec une porte et que c'est accompli. Vous devez d'abord élargir et ouvrir la conscience, avoir cette connaissance, passer à l'action, vous délivrer et ensuite intégrer totalement la compréhension que vous avez eue pour ensuite aller vers d'autres initiations. Lorsque vous passerez dans la septième initiation, alors même le miroir rond ne sera plus nécessaire. C'est-à-dire que vous allez cesser de voir dans les autres ou avoir de l'autre une notion de miroir. Vous aurez plutôt une notion ovoïde, c'est-à-dire avec la forme d'un œuf, où vous verrez à l'intérieur de cet œuf circuler toute énergie et vous comprendrez que l'autre n'est pas séparé de vous, mais qu'il est vous. À ce moment-là, vous entrerez dans ce que nous appelons l'énergie de fusion. Vous aurez quitté de façon plus définitive tous les traits de personnalité, les attentes, les attaches. Vous aurez aussi libéré les émotions, franchi la dualité. Vous ne serez plus un être qui sert les autres pour se réaliser, mais qui sert les autres pour les sauver, mais qui sert plutôt pour se réaliser lui-même. À ce moment-là, vous allez contacter une énergie qui soit nouvelle, qui sera l'énergie de co-création. À ce moment-là, vous serez attiré par des plans encore supérieurs et vous quitterez ce qui est appelé le plan linéaire ou la troisième dimension. Et dans cette énergie de quatrième dimension, alors vous entrerez dans le mouvement qui est le mouvement de spirale et vous évoluerez très rapidement. Alors, nous insistons pour dire que vous ne pouvez pas franchir les étapes dans une seule journée, quoique vous allez les franchir très rapidement à mesure que vous allez éveiller la conscience. Il est important de remarquer ou de noter que au moment où vous aurez franchi la septième initiation, vous n'aurez plus ou ne vivrez plus les mêmes types de relations que vous vivez actuellement, qui sont bien sûr des relations de miroir. Mais ces relations de miroir, vous les vivez depuis des millénaires et viendra le temps où vous pourrez briser ces miroirs puisque vous n'en aurez plus besoin. Alors, au lieu d'avoir une pièce de verre qui est enduite pour la rendre obscure, cet enduit disparaîtra et vous deviendrez transparence. Lorsque vous aurez atteint cet état de transparence, d'abord avec vous-même et ensuite avec les autres, vous ne serez plus séparé de la création, donc vous n'aurez pas besoin de miroir. À ce moment-là, vous pouvez comprendre que vous touchez l'énergie de la septième race et que vous allez évoluer très rapidement. Cet enseignement est un peu global et pour vous la rendre plus particulière, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, directeur, nous serions prêts pour cette période de questions.
La première question que j'ai, est-ce que le rôle de la hiérarchie est de faire le miroir à l'humanité ou de servir de guide comme un parent? Et si c'est le cas, est-ce que cette hiérarchie accepterait de changer pour servir de miroir afin que l'humanité se responsabilise par ses actions et qu'elle prenne sa place comme dixième hiérarchie co-créatrice?
Nous vous dirons que la hiérarchie n'est pas un miroir. Les êtres qui font, et nous allons donner un peu d'enseignement au niveau de la hiérarchie, s'il y a des gens dans cette pièce qui ne connaissent pas ce principe. Nous expliquons, ici sur le plan terrestre, vous pouvez visualiser que la race humaine est composée dans la forme d'une pyramide. Qu'au bas de cette pyramide, dans une couche très mince, il y a des gens qui appartiennent encore à la quatrième race, qui sont les fomenteurs de guerre et ceux qui créent, nous dirons, l'énergie obscure. Il y a ensuite la masse qui compose la partie majeure et qui est dans la cinquième race. Mais à la pointe de cette pyramide, il y a des gens qui évoluent, qui sont attirés par la lumière, qui acceptent de passer par les détachements pour entrer dans un chemin plus étroit, car plus vous montez au sommet de la pyramide, plus c'est étroit et moins il y a de personnes. Et nous vous dirons que les personnes évoluent. Une seule personne qui est rendue dans la septième race, qui est le sommet de cette pyramide sur le plan dans le corps de matière, cette personne peut attirer des mille et des mille personnes vers elle. C'est-à-dire que son énergie est une énergie ascendante qui aspire. alors que quelqu'un qui est au bas de cette pyramide attire vers le bas, vers la matière. Il en est de même pour la hiérarchie. La hiérarchie, vous devez la comprendre comme étant une multitude d'êtres qui sont dans d'autres formes vibratoires. Pour les uns, ils sont passés sur le plan terrestre déjà. Vous les appelez les maîtres ascensionnés. Il y a aussi dans cette hiérarchie les anges qui, eux, n'ont pas de libre arbitre et qui sont des exécutants, des maîtres de la hiérarchie. Il y a encore dans cette hiérarchie les archanges qui sont et les trônes et les principautés et plusieurs formes d'êtres très lumineux qui ont des tâches à accomplir. Ces êtres lumineux sont conduits... Il y a ici une restriction. Sont conduits ou sont gérés par ce que vous pourriez appeler le Conseil des Douze. Ce Conseil des Douze ne comprend pas uniquement 12 personnes ou 12 archanges, mais 12 puissances énergétiques avec des connotations différentes. Vous pouvez avoir, par exemple, un rayon qui serait le rayon de la compassion, alors que vous aurez un autre rayon qui pourrait être celui de la volonté, et ainsi de suite. Et alors, les maîtres qui sont dans la hiérarchie ne travaillent pas, travaillent en collaboration avec les êtres du plan terrestre et de d'autres plans, mais ils ne travaillent pas pour sauver le plan, ils travaillent pour se permettre à eux-mêmes d'évoluer et retourner directement vers la source. Alors, vous pouvez considérer que ceux qui sont dans la pyramide de lumière, au-delà de la matière, et vous pourrez aller dans cette pyramide, nous en parlerons, ceux-là évoluent pour eux-mêmes. Ils sont dans un grand rythme évolutif, comme vous êtes aussi dans un rythme évolutif depuis 2,5 billions d'années. Alors, eux, ils ont traversé, nous dirons, des couches initiatiques et ils évoluent et ils retournent vers la source. Alors, d'une certaine façon, ils peuvent être des miroirs dans le sens qu'ils sont des serviteurs du plan terrestre et nous dirions non pas seulement du plan terrestre, mais du cosmos tout entier. Ils sont des serviteurs, mais lorsqu'ils auront atteint la source, ils n'auront plus besoin eux-mêmes d'avoir de serviteurs qui vont leur rendre des services, comme vous-même lorsque vous aurez suffisamment évolué et que vous aurez atteint la source, et lorsque toute l'humanité sera retournée vers la source, alors ces pyramides ou ces hiérarchies ne seront pas nécessaires. Alors, les maîtres de la hiérarchie sont nécessaires dans la mesure où ils évoluent eux-mêmes et où ils nous entraînent par leur évolution dans notre propre mouvement.
Merci.
Est-ce que ceci répond à la question?
Y a-t-il un commentaire par rapport à le commentaire qui viendrait de faire?
Si vous avez des questions sur les réponses que nous vous donnons, parce que ceci n'est pas suffisamment clair, allez-y.
Autre question. Lorsqu'il y a beaucoup de guerres ou encore de disputes autour de moi, alors que je sens beaucoup de paix à l'intérieur de moi, est-ce possible que ceci soit comme ainsi pour travailler le détachement? Ou encore, est-ce que cela serait-il des anciens karmas à finir entre ces guerriers?
Nous vous dirons bien sûr ceci peut être des karmas à terminer, parce que tant que vous reflétez autour de vous des énergies de guerre, c'est parce que quelque part dans vos cellules, il y a des petits guerriers qui tiennent encore les fusils. À ce moment-là, vous ne jugez pas les gens qui sont autour de vous parce qu'ils ne sont que le reflet d'une partie de votre énergie, non pas de la totalité, mais nous disons bien d'une partie de votre énergie. Lorsque vous aurez franchi tous ces karmas, que vous les aurez libérés et sortis de votre aura, vous allez changer tout simplement de contexte. Les événements vont faire que vous allez être avec d'autres gens et vous ne serez plus dans les énergies de guerre. Alors, nous disons à la personne qui a posé cette question qu'il lui reste encore du ménage à faire. Et c'est très bien.
Lorsque nous disons que tout autour de soi est notre création, alors comment traiter tous ces miroirs que parfois qu'on a la difficulté à recevoir et accueillir?
Les traiter comme vous-même. Tous les miroirs qui sont autour de vous, toutes les personnes qui sont autour de vous sont vous ou sont une partie de vous, ne sont pas votre totalité puisque vous êtes multidimensionnel, mais sont une partie de vous. Vous avez raison de dire que tous ces miroirs sont des illusions, car la création qui est dans la matière et dans la matière dense est une illusion. Toutes les croyances que vous avez eues jusqu'à maintenant sont des illusions. Alors, vous pouvez comprendre ou saisir que ces miroirs qui sont autour de vous ne sont là que parce que vous n'avez pas terminé cette étape, que vous n'avez pas fini de traverser la cinquième race, mais que vous êtes appelé dans la sixième race, puisque vous avez déjà cette conscience. Alors, nous insistons sur le fait que tout est illusion. Tout est illusion qui n'est pas amour et qui n'est pas lumière. Tout est illusion, ce qui tombe sous les sens. Et alors, les gens qui sont autour de vous, qui vous exaspèrent ou qui vous fatiguent, viennent vous toucher à travers vos sens. Ils viennent vous toucher parce que vous avez vu ou entendu ou touché une énergie qui leur appartient et qui vient vous refléter une partie de vous-même. Et tout ceci sont des illusions. Lorsque vous aurez compris ce monde des illusions et que vous en sortirez, vous n'aurez plus, vous ne serez plus habité ni par la haine, ni par la colère, ni par le doute, ni par le jugement. Vous serez délivré de ceci et vous entrerez dans les vibrations nouvelles qui sont la paix, qui sont l'harmonie intérieure et qui sont le service pour l'évolution propre.
C'est possible de mentionner comment se pratiquer le détachement face à des miroirs qui sont en face de nous et que parfois nous sommes tentés à répliquer de la même façon. Exemple, la colère engendre la colère et vice-versa.
Nous vous dirons, lorsque vous créez la colère ou que vous faites une colère à quelqu'un ou que vous injuriez quelqu'un, vous n'injurez pas l'autre personne et vous ne faites pas la colère à l'autre personne. Vous la faites à vous-même. Lorsque vous allez comprendre que lorsque vous êtes jaloux d'une partie de vous, que vous êtes dans la haine, c'est vous que vous haïssez, que vous êtes dans la colère, que c'est contre vous que vous en avez. À ce moment-là, vous ne pourrez plus voir l'autre de la même façon. L'autre est un miroir. Allez toucher votre miroir. Bien sûr qu'il vous reflète, mais est-ce que même le miroir physique ne vous reflète pas l'illusion? Lorsque vous êtes dans votre salle de bain, placé face à votre miroir, levez votre main droite et vous verrez bien que le miroir, lui, si vous étiez placé dans le même sens que lui, lèverait la main gauche. Que votre œil droit est l'œil gauche, et ainsi de suite. Alors, c'est comme si le miroir vous reflète une opposition. Et nous vous dirons, le miroir, même si vous essayez de le saisir, même si vous essayez de le prendre, vous savez bien que ce n'est pas vous. Lorsque vous regardez vos yeux dans le miroir, vous ne pouvez pas prendre ses yeux dans le miroir. Le miroir est le miroir. Il ne fait que vous dire qui vous êtes. Alors, il en est de même pour toute émotion que vous vivez. Comment corriger ceci par la seule conscience que chaque fois que vous vous blessez vous-même, que chaque fois que vous haïssez vous-même, que chaque fois que vous jugez vous-même, puis vous allez devenir exaspéré de ces traitements que vous vous donnez et vous allez les transformer dans un miroir qui a une forme différente. Et vous allez vous créer des gens qui vont commencer à vous dire que vous êtes belle, que vous êtes lumière, ou qu'ils vous aiment. Et ce sera vous qui vous vous aimez, ce sera vous qui vous direz que vous êtes lumière. Autrement, si vous croyez que ce que vous recevez dans le miroir ne vous appartient pas, vous vous maintenez dans le monde de la division.
Une question qui pourrait peut-être vous faire sourire un peu ici. Le chariot blanc est-il le miroir de notre moi supérieur qui veut fusionner avec notre individualité?
Ceci nous amuse, bien entendu. Le chariot blanc, c'est une énergie. Nous vous dirons, le chariot blanc, bien sûr, il reflète comme le soleil, comme la lune reflète le soleil, ou comme le soleil reflète sa propre énergie. Ne considérez pas le chariot blanc comme étant une entité extérieure à vous. Considérez-la plutôt comme une partie de votre énergie. Et alors, vous serez comme l'énergie du soleil, vous reflétant à vous-même. Le chariot blanc, ce n'est pas une forme, ce n'est pas dans la troisième dimension. Vous ne pouvez pas comprendre le chariot blanc avec le langage de la troisième dimension. Vous devez avoir été dans la quatrième dimension pour savoir qu'il n'y a pas de division et qu'il n'y a pas de séparation. Alors, si ce soir, vous aviez la capacité de voir avec vos yeux physiques le chariot blanc, vous verriez tout simplement dans cette pièce une pyramide où au sommet de cette pyramide, il y a une lumière incandescente qui est créée par les rayons de chacun de vos énergies. Si vous appelez ceci un miroir, eh bien, que ceci soit selon votre convenance. Nous appelons ceci uniquement un grand vortex énergétique qui, bien sûr, rallie dans l'énergie de fusion les énergies parce que les énergies du chariot blanc ne se véhiculent pas uniquement car nous devons passer par la matière, nous devons passer par la parole, par le langage, par le vocabulaire que vous connaissez, pour pouvoir vous transmettre les vibrations que nous recevons, comme dans l'émission, dans une émission radiophonique, par exemple. Alors, considérez que chacune des ondes qui émanent de vous viennent faire vibrer, nous dirons, cette antenne qui est le chariot blanc, pour que ces vibrations se multipliant les unes avec les autres, puisse être communiqué dans la matière.
La prochaine question, comment traiter nos cinq sens afin que ceux-ci nous reflètent le moins possible de miroirs dans lesquels que l'on prend et que l'on glisse tellement souvent par rapport à ces sens-là?
Nous vous dirons que pour bien libérer les sens, car vous devez libérer les sens si vous voulez comprendre l'énergie qui est cachée derrière vos sens. Vos sens sont des portes ouvertes sur le monde. Elles sont des portes ouvertes sur la vibration dans laquelle vous êtes présentement, que vous appelez la vibration de la matière et du plan terrestre. Alors, pour comprendre l'énergie caché derrière les sens, vous devez amener ces sens au niveau du chakra du cœur, dans cette glande qui est appelée le thymus et qui a le grand pouvoir de transformation de la matière, puisqu'elle a reçu la mission, cette glande de créer et préparer le corps de lumière. Alors, si vous commencez à comprendre que ce n'est pas ce que vous voyez extérieurement de la personne, puisque son apparence extérieure, que ce soit son apparence dans l'émotion, son apparence dans le corps physique ou son apparence dans sa dualité, n'est pas cette personne, que ceci est uniquement un véhicule et un instrument, alors vous allez utiliser les yeux du cœur pour voir cette personne dans l'énergie. Vous verrez à ce moment-là d'autres types de vibrations. Vous pouvez faire la même chose avec le sens de l'ouïe, c'est-à-dire ne pas uniquement entendre les mots qui sont dits par la personne ou entendre les émotions, mais peut-être entendre que derrière ceci, il y a quelqu'un qui cherche éperdument l'amour et qui ne sait pas comment faire parce qu'elle se débat encore dans le monde de l'illusion. À ce moment-là, vous écouterez avec les oreilles du cœur. Alors, si vous amenez vos sens dans le cœur, vous allez être délivré de la matière. Vous allez être délivré des vibrations lourdes qui vous entraînent dans ce que nous appelons l'énergie atomique. Considérez l'énergie atomique comme étant une énergie qui a un proton, proton et qui est entouré d'électrons. Le proton a une grande puissance et sa puissance, c'est la puissance d'attraction. Vous pouvez considérer cette énergie atomique, l'énergie dans laquelle vous vivez depuis des millénaires sur le plan terrestre et qui vous a fait fonctionner à travers vos trois chakras de la base. Mais voici qu'en ces temps très précieux où vous vivez l'ouverture sur le plan terrestre, vous êtes appelé à faire une scission de ce noyau d'énergie atomique. À ce moment-là, lorsque le noyau sera brisé, c'est que les électrons vont être propulsés et vont se multiplier. Pensez uniquement à la bombe atomique et à l'effet créé. Alors, si vous arrivez à scinder ce noyau et à le briser, c'est-à-dire à lui enlever sa force d'attraction, alors vous allez développer une autre forme énergétique et cette forme énergétique sera une énergie beaucoup plus subtile qui sera l'énergie électrique et à ce moment-là, vous allez commencer à créer le corps de lumière. Si vous vous habituez à revenir dans le thymus, dans cette chambre sacrée où se prépare, nous dirons, le sacre du roi, le roi que vous êtes ou le dieu que vous êtes, si vous vous habituez à amener dans ce chakra du cœur votre manière de voir, d'entendre, même de goûter et même de sentir, nous vous dirons, vous ne verrez plus l'univers de la même façon et vous allez être délivré de l'attraction. L'attraction des sens qui vous a conduit et qui vous a mené depuis des millénaires comme si vous étiez un esclave et que ces forces étaient toutes puissantes pour vous conduire. Maintenant, vous avez la possibilité de sortir de cette énergie pour entrer dans la sixième et la septième race et enfin être délivré à jamais de tous ces miroirs.
Pouvez-vous parler de notre sagesse qui a créé tous ces miroirs et qui par la suite nous devons nous débarrasser de ces miroirs?
Certainement. Nous vous dirons si vous avez créé ces miroirs et si vous avez des multitudes de miroirs autour de vous, ils ne reflètent bien sûr que votre énergie de sagesse. Lorsque vous avez décidé avec votre libre arbitre de venir expérimenter la densité de la matière et lorsque vous vous êtes senti prisonnier de cette matière, c'est à ce moment-là que vous avez créé devant vous tous ces miroirs qui vous permettrait un jour enfin de savoir qui vous êtes, de reconnaître qui vous êtes. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de reconnaître votre image véritable. Mais lorsque vous vous serez connu, vous vous contemplerez vous-même comme le Père se contemple. Vous vous adorerez vous-même comme le Père s'adore lui-même. Et c'est à ceci que vous êtes appelé. Alors, en attendant, pendant le temps où vous faites l'intégration de ces énergies et de ces connaissances et de cette conscience nouvelle, utilisez les miroirs qui sont autour de vous. Ils vous permettront de vous libérer rapidement de beaucoup d'aspects karmiques et ils vous permettront d'éveiller et d'élargir la conscience afin de pouvoir vous ouvrir à cette énergie du cœur et vous libérer de toutes ces entraves anciennes. C'est la sagesse qui vous a fait créer les miroirs. C'est la sagesse même qui vous a fait expérimenter la matière. Que pourriez-vous dire de la matière si vous ne l'aviez pas expérimentée? Et nous vous dirons, ceux qui accepteront pendant les temps présents de traverser ces étapes, de se libérer des miroirs, de briser les miroirs karmiques, ils ne seront plus soumis à la loi du karma parce qu'ils comprendront qu'ils ont créé eux-mêmes cette loi. Ils ne seront plus soumis à la loi de la réincarnation parce qu'ils comprendront qu'ils ont créé eux-mêmes ce cycle de la réincarnation. Et c'est à ce moment-là qu'ils seront délivrés et commenceront à créer ce corps de lumière, ce corps d'ascension. Et nous dirons, cette création de votre corps d'ascension, c'est votre droit de naissance. Personne ne vous donne ce droit. C'est vous qui vous le donnez vous-même. C'est vous qui vous propulsez vous-même vers cette lumière. Et vous avez choisi, étape par étape, des moyens différents d'évolution, comme l'enfant qui est petit, choisit des moyens pour se comprendre, pour se saisir, pour savoir qui il est. Lorsqu'il prend son petit pied, qu'il le met dans sa bouche, c'est uniquement pour savoir qu'il s'appartient et que ce corps est à lui. Mais nous vous dirons, à votre âge, pour savoir qui est votre corps, vous ne mettez pas votre pied dans votre bouche, n'est-ce pas? Vous êtes rendu à un autre taux vibratoire et un autre degré de connaissance. Il en est de même tout au long de votre évolution. Et observez bien comment vous êtes en train de transformer les miroirs autour de vous. Comparez avec votre enfance, par exemple, et voyez comment, dans votre enfance, vous vous êtes créé des situations difficiles et que progressivement, à mesure que vous comprenez et vous dégagez de vos comportements anciens, comment vous vous créez des relations nouvelles et comment vous vous choisissez personnellement à travers les relations que vous créez, c'est-à-dire que vous choisissez les miroirs avec qui vous voulez bien être.
La prochaine question, à quoi sert le Reflecting Pool de l'obélisque de Washington, D.C.? Est-il toujours aussi actif?
Nous vous dirons qu'il a encore une certaine activité, mais que son activité commence à être périmée, parce que les êtres humains commencent à comprendre que the real pool is inside of them. C'est-à-dire que nous dirons le potentiel ou le capital le plus important est à l'intérieur. L'être humain, depuis des millénaires et depuis les temps derniers, a compris qu'il commence à sortir de la conscience collective. Avant, il était prisonnier de la conscience collective. Il devait aller dans le sens de la collectivité. Maintenant, il se dépouille de la connaissance de la conscience collective. Il commence à entrer dans une conscience qui est plus personnalisée. Ensuite, il franchit une autre étape vers l'individualisation. Et lorsqu'il a franchi cette étape, Il n'a plus besoin de ces poules extérieures pour pouvoir évoluer et avancer. À ce moment-là, il se propulse par lui-même et c'est que le pouvoir d'attraction change. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'être soumis à des attractions venant du plan terrestre, mais il est happé par d'autres énergies venant de d'autres plans, des plans de hiérarchie par exemple. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il peut prendre l'énergie de ces plans de hiérarchie pour les descendre dans la matière, pour pouvoir transformer la matière. Car ne croyez pas que si vous fuyez dans une autre planète, que vous allez être libéré de tous les miroirs que vous avez sur le plan terrestre. Vous en aurez d'autres, ils auront peut-être d'autres formes ou d'autres couleurs, mais ils seront là quand même, puisque tant que vous n'aurez pas franchi les initiations nécessaires pour être dans votre corps de lumière, vous vous créerez, peu importe où, des miroirs. Mais lorsque vous aurez franchi le, nous dirons, le sommet de l'astral, vous ne serez plus soumis à l'attraction du bas, mais vous serez soumis à l'attraction ascendante. C'est pourquoi ce pôle énergétique dont vous parlez de Washington a une certaine puissance encore, mais il a puissance sur les gens de la cinquième race.
Alors les miroirs que nous nous créons sont des instruments, sont des moyens d'évolution, n'est-ce pas?
Certainement.
Sont-ils également
des ports d'attache?
Des ports d'attache, justement, par rapport à la famille, puisque c'est dans la famille proche que l'on se crée les miroirs les plus près.
Nous vous dirons certainement. Vous devez considérer la famille comme un lieu privilégié des miroirs. Et voyez si ce n'est pas là que se vivent très souvent les aspects conflictuels ou les aspects d'attache. Il est très difficile, par exemple, pour des enfants de couper le cordon ombilical des parents, même si tout leur langage est un langage qui reflète la liberté. Ils veulent la liberté à la condition de ne pas payer la facture de la liberté. Ils veulent être libres de dépenser, par exemple, sans avoir la responsabilité de gagner les sous. Alors, ceci crée souvent des attitudes conflictuelles. Ils veulent être complètement autonomes et en même temps, ils ne veulent pas faire trop d'efforts pour accéder à cette autonomie totale. Alors, nous vous dirons, la famille, bien sûr, a servi depuis des millénaires à permettre aux gens, dans leur sagesse, à se reconnaître dans leur propre type de comportement. Si vous avez la sagesse de retourner chez vous, par exemple, ce soir, et d'écrire sur une feuille tout ce qui, toutes les formes de caractéristiques appartenant à votre père et toutes les formes de caractéristiques appartenant à votre mère, vous allez voir que vous avez créé là, nous dirons, vous avez tissé le tissu parfait de votre propre aspect karmique dans ce plan terrestre. C'est pourquoi la famille, bien sûr, est le reflet parfait des miroirs karmiques que vous avez à vivre. Nous expliquerons que la famille va encore survivre sur le plan terrestre pendant quelques centaines d'années, peut-être plus longtemps encore. Ceci dépendra de l'évolution du plan, car vous avez le libre arbitre. Mais ensuite, les familles seront très différentes, puisque votre frère et votre sœur ne seront pas nécessairement ceux qui seront issus de votre père ou de votre mère. Et n'est-ce pas que parfois, vous avez des amis qui sont plus proches que vos frères ou que vos sœurs, à qui vous pouvez faire des confidences qui ne sont pas cramponnées à vous et à qui vous n'êtes pas attaché de façon démesurée. Alors, nous vous dirons, toute cette notion de famille, toute cette notion de couple est appelée à être transformée. Ceci ne veut pas dire que ce soir, vous ayez à quitter la famille ou le couple, Si vous brisez prématurément le miroir, vous aurez à vous en créer d'autres. Alors aussi bien utilisez ceux qui sont là, présents auprès de vous, que vous avez créés par sagesse pour terminer et libérer tous ces aspects karmiques pour ensuite entrer dans la conscience nouvelle.
Prochaine question. Je suis consciente que je suis multidimensionnelle. Chaque conscience dans une dimension est-elle le miroir de ma conscience dans une autre dimension? Le travail que je fais dans le plan physique peut-il se comparer à ce qui se travaille dans un autre plan?
Nous vous dirons, si vous vous considérez dans la multidimensionnalité comme un être séparé, c'est-à-dire ayant 15 corps, et qui va avec un corps plus lumineux travailler avec les anges et un corps encore plus lumineux travailler dans le rayon des archanges ou ainsi de suite, ou travailler avec les maîtres ascensionnés ou les guides du plan terrestre ou nous dirons les guides karmiques, et que vous avez toutes ces dimensions et que vous considérez ainsi la multidimensionnalité, nous vous dirons oui, vous pouvez considérer que l'extérieur est miroir. Mais si vous avez atteint cette conscience où vous n'avez plus besoin ni du miroir carré, ni du miroir rond, mais que vous êtes entré dans l'énergie ovoïde, à ce moment-là, vous ne pourrez pas considérer que les autres plans de votre multidimensionnalité soient séparés de ce que vous êtes présentement. Alors vous comprendrez qu'au lieu de vous voir comme dans des petits compartiments, ou dans des corps différents, ce qui se produit d'ailleurs, vous considérerez que tous ces corps ne sont pas séparés, puisqu'ils sont énergie, ils sont fondus les uns dans les autres, et vous allez même pouvoir comprendre à un moment donné que celui qui est en face de vous, qui s'appelle Pierre, ne s'appelle pas Pierre, qu'il s'appelle vous. Que celui qui s'appelle Roger ou Michel ou Nicole n'est ni Roger, ni Michel, ni Nicole, mais qu'il est une partie.
J'éviterai mes miroirs par le même coup si vous avez une question ou deux, alors gênez-vous pas.
Nous écoutons les miroirs.
S'il y a des questions parmi les gens? Oui, madame.
Le mythe d'Alice au pays des merveilles qui est passé de l'autre côté du miroir,
c'est parfait.
Est-ce que c'est la septième race?
Exactement, c'est la forme ovoïde. À ce moment-là, il n'y a plus de miroir. Le miroir est, nous dirons, est lavé de son enduit. Il devient la transparence. Et bien sûr, il devient tout simplement la transparence énergétique, et c'est pourquoi il peut être traversé. Et c'est l'énergie de la septième race. Vous avez raison, chère dame. Votre intuition est très claire. Aimez Alice au pays des merveilles.
C'est de s'ouvrir également par rapport au monde de l'illusion.
Que voulez-vous dire?
Dans le sens que tout ce qui est dans ces dessins animés nous montre comment que l'on est dans notre propre vie.
Nous vous dirons d'une certaine façon oui, mais il y a eu de grands sages qui avaient à livrer au plan terrestre des enseignements qui ne sont compris qu'aujourd'hui, mais qui n'avaient pas les mots pour faire comprendre à cause du taux vibratoire. Alors, par le biais de ces formes de petits contes, ils pouvaient atteindre l'énergie des gens et les faire évoluer. Ne croyez pas que ceux qui ont écrit ces contes étaient des êtres de la troisième dimension. Ils étaient déjà suffisamment évolués pour pouvoir apporter sur le plan terrestre cette vibration. Et il y avait une grande sagesse dans ces contes, comme beaucoup de poètes, par exemple, qui ont laissé des contes précieux pour le plan terrestre. Regardez uniquement Christ Jésus, qui a très souvent parlé en parabole, parce qu'il savait que le langage de la parabole allait toucher l'inconscient. Et ceux qui ont écrit ces contes, qui étaient racontés à l'âme naïve des enfants, étaient de grands sages. Il savait que l'âme, elle, allait recueillir ceci. Est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois, dans les temps présents, de réaliser que vous venez de comprendre quelque chose que vous cherchez depuis que vous êtes un enfant? Et que cette lumière que vous découvrez tout à coup, cette extase que vous touchez tout à coup, cette vérité qui vous apparaît si claire, vous la cherchiez depuis si longtemps, c'est que déjà, elle germait dans votre inconscient à partir de ces contes. C'est pourquoi nous vous invitons, vous tous qui êtes ici, si vous sentez une vocation à faire des contes ou des récits qui pourraient servir à l'âme des enfants ou à l'âme des adolescents, n'hésitez pas. Même si vous dites ces contes seront lus, mais ils vont se perdre de génération en génération. L'énergie ne se perd jamais. Et la sagesse des maîtres qui sont venus raconter ces histoires pour vous donner un enseignement très précieux, que ce soit le petit chaperon rouge qui vient vous parler de la cinquième race, du sauveur, du persécuteur et de la victime, qui avait eu, bien sûr, des apparences très coquettes. Nous vous dirons ainsi que ce conte d'Alice au pays des merveilles était là pour vous donner, non pas une énergie d'illusion, mais pour vous donner une compréhension qui n'aurait pas été saisie autrement. Et bien sûr, en même temps, en réponse à votre question, directeur, toutes ces images peuvent vous apparaître comme le monde de l'illusion, le monde de votre création, le monde de tous les scénarios multiples que vous jouez depuis des millénaires sur le plan terrestre. Mais maintenant, vous êtes appelé à quitter ce monde de l'illusion et à traverser le miroir comme Alice au pays des merveilles.
J'ai une demande spéciale ici, que ça veut même une demande de méditation. Elle est la suivante. Il y a 2000 ans, une entité a accepté de jouer un rôle ingrat, Judas. Depuis ce temps, une énorme forme pensée de condamnation, de jugement et de rejet est alimentée par la race humaine. Le temps n'est-il pas venu de réhabiliter cette entité et de dissoudre cette forme pensée?
Nous vous dirons, vous allez dissoudre cette forme pensée lorsque vous allez comprendre que celui que vous avez appelé Judas et que vous avez condamné n'était qu'une partie et un reflet de vous-même. Alors si vous cessez de vous juger, si vous cessez de vous pendre, si vous cessez de vous condamner, il n'y aura plus de Judas dans l'énergie. Nous invitons toutes les personnes qui sont ici à regarder un scénario qui a été aussi tracé par un maître qui avait à l'intérieur de lui le sens de la recherche que nous appellerons la recherche évolutive et la recherche vers des plans qui étaient les plans de libération. Ce maître a écrit un film que vous pouvez trouver dans les lieux où vous achetez les films que vous passez sur vos écrans de télévision. Et ce film porte la vibration de la dernière tentation du Christ. Regardez ceci. Voyez comment ce grand maître Jésus, qui était aussi comme vous l'êtes présentement, a traversé des plans initiatiques, a accepté de vivre ceci pour sortir de la réalité de victime, pour sortir de la réalité de sauveur, pour sortir aussi de la réalité et de la puissance exercée par l'énergie atomique. Lorsque vous regarderez ce film, vous observerez comment l'illusion la plus subtile est venue lui apporter la dernière tentation. Vous allez comprendre comment parfois vous avez l'impression de faire ou d'être en présence d'une énergie très pure, mais que derrière cette énergie très pure, il peut y avoir encore des subtilités qui vous tendent des pièges. Est-ce que la question demandait une méditation, vous avez dit?
Oui, en somme, pour libérer cet être-là, cette entité. Et puis aussi, comme deuxième volet, il est demandé, pouvez-vous nous parler un peu du cheminement de cette entité depuis 2000 ans?
Nous vous parlerons de votre propre cheminement en vous parlant de lui. Nous vous dirons, lorsque vous aurez regardé le film que nous avons proposé, vous ne verrez plus Judas de la même façon. Judas, il était un être d'amour qui avait accepté de jouer un rôle pour que Christ Jésus puisse aussi compléter le scénario qu'il avait décidé lui-même de venir jouer sur le plan terrestre. Si personne n'avait accepté de jouer le rôle de celui qui vend Jésus, comment les ennemis seraient-ils venus le chercher? Si personne n'avait joué le rôle de crucifier Jésus, comment Jésus aurait-il pu passer à travers ce palier initiatique? Alors tous les êtres qui ont été autour de lui, les uns qui ont été adulés, les autres qui ont été considérés comme des monstres, avaient tous un scénario à jouer afin que cette pièce puisse être complète. Et tous ces êtres, au fond d'eux-mêmes, ne possédaient que l'amour pour accepter de jouer de tels scénarios. Alors, si vous comprenez l'amour qui est caché derrière le geste posé par Judas, vous ne verrez plus Judas de la même manière. De la même façon que si vous regardez les gestes que vous avez posés contre vous-même pour vous agresser ou pour vous détruire, que vous comprendrez que vous avez posé ces gestes afin de vous exaspérer et de sortir de ce monde de l'illusion. Alors, au lieu de vous juger, vous serez dans la compassion pour vous-même. Judas n'est pas une entité extérieure à vous, il est vous. Alors, si dans votre pensée ce soir, Judas est libéré, cette entité, comme vous dites, est libérée, et vous êtes tous libérés vous-même de ce Judas qui était un Judas intérieur, où vous vous êtes vous-même souvent trahi dans votre propre lumière, où vous êtes très souvent jugé vous-même. Ceci est une vision différente, n'est-ce pas? Alors, il ne peut plus y avoir d'accusateur. Tout est amour. La base de tout ce qui est vécu, de toutes les vibrations, même si elles vous apparaissent obscures, sont là quelque part pour favoriser l'évolution. C'est le cheminement de la race. Ceci ne veut pas dire que vous allez maintenant dire, eh bien, tout est autorisé. Je vais sortir d'ici et je vais tuer mon frère ou je vais tricher celui-ci. Non point, parce que alors vous allez, nous dirons, trahir votre propre conscience et vous ramener dans l'énergie lourde.
Y a-t-il un commentaire ou une question parmi les gens, en fait? Oui? Et lui après?
J'aimerais savoir ce que vous suggérez comme outil de guérison pour libérer cette cristallisation d'énergie.
Nous allons proposer un exercice. Lorsque vous dites guérison, nous avons un peu d'hésitation, car la guérison appartient à la cinquième race. Parce que lorsque vous dites guérison, vous dites à l'opposé maladie ou cristallisation. Il serait important que vous arriviez à changer votre vibration de langage à ce niveau. Nous vous dirons la guérison, bien sûr que vous pouvez décoder le mot avec une façon différente et l'appeler la croissance cellulaire ou le décodage cellulaire. À ce moment-là, vous enlevez la connotation de maladie. Bien sûr, direz-vous, ceci est joué sur les mots. Et pourtant, les mots et les pensées sont ce qui crée l'univers. Alors, il serait bien que vous puissiez parler plutôt de l'invasion de la lumière dans vos cellules. Alors, l'exercice que nous allons proposer immédiatement à tous les gens qui sont présents ici est l'invasion de la lumière dans vos cellules pour rendre, nous dirons, chacune de vos cellules dans cette énergie fluidique. Nous demandons de bien vous centrer d'abord sur cette glande qui est le thymus, qui est placé au centre du chakra du cœur. Voyez que votre respiration vient également de cette zone. Ensuite, visualisez qu'au sommet de la hiérarchie, il y a un archange et que cet archange a le pouvoir de travailler dans votre énergie. Nous prendrons par exemple celui qui travaille dans le 9e rayon. Placez-vous sous l'énergie de ce 9e rayon qui fait couler dans votre aura et vos corps énergétiques, c'est-à-dire qui atteint ce corps qui est le corps éthérique dans lequel est encodé toutes vos pensées et vos émotions depuis des millénaires. Voyez qu'il fait couler alors dans votre aura et dans ce corps éthérique une lumière bleue et verte qui se confond et devient turquoise. Voyez ensuite qu'il y a le Métatron, qui est l'être le plus proche du Conseil des Douze et qui travaille directement avec le plan terrestre. Voyez qu'il fait descendre du haut de la hiérarchie dans le sommet de votre tête une lumière bleue et or, entourée d'une gaine de lumière blanche. Voyez que ce cylindre de lumière traverse complètement votre corps et qu'il va s'ancrer jusqu'au centre de la terre comme s'il y avait un crochet à ce rayon. Il s'accroche à l'énergie de Sandalphon, qui est celui qui travaille dans le laboratoire de lumière au centre de la terre. Voyez que ces deux énergies en contact créent une forme de courant électrique qui passe à travers la matière et chacun de vos corps éthériques. Voyez que cette lumière a la puissance, sans que vous ne fassiez aucun effort, de libérer des multitudes de vies anciennes. Voyez ces multitudes de vies sortir de votre aura. Voyez maintenant que ces deux rayons viennent se croiser et se toucher de façon importante dans le thymus pour actionner cette glande. Voyez maintenant que s'allume une étincelle qui restera de façon permanente à partir de ce soir dans votre glande du thymus et qui va se développer, c'est-à-dire qui va s'intégrer dans la matière et progressivement collaborer à la scission du noyau atomique pour créer l'énergie électrique. Si vous reprenez cet exercice pendant une période de 21 jours, vous allez sentir la puissance de la libération et vous allez voir des multitudes de miroirs se briser autour de vous, c'est-à-dire que vous n'en aurez plus besoin. Vous sentirez s'établir dans le chakra du cœur la paix et l'harmonie. C'est dans cette énergie que nous vous quittons, c'est-à-dire que nous retournons compléter la tâche que nous avons à accomplir pour notre propre évolution, sachant qu'en évoluant, nous vous permettons d'évoluer et qu'en vous voyant évoluer, vous nous permettez d'évoluer. Nous vous remercions pour cette présence ici et nous continuons notre travail avec vos énergies, même lorsque vous avez l'impression que nous avons quitté la forme. Alors que la paix, que la lumière, que le son, le souffle et la lumière soient avec vous à jamais. Amen. Nous devons maintenant quitter la forme.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Suivant le besoin, s'il vous plaît, commencez l'ajustement de tout haut vibratoire.
This is done.
S'il vous plaît, permettez à la pression sanguine, de même que toutes les autres fonctions du système physiologique qui ont été ralenties, de revenir à la normale d'une manière naturelle et continue maintenant.
This is done.
Que ce corps se réveille, se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré.